Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque semaine pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne tout de suite avec Ravelli Lemel. Ravelli Lemel, bonsoir. Et Shabbat Shalom. On va ce soir aborder une nouvelle paracha. Donc la nouvelle paracha, c'est Shmini. Et vous avez envie, vous, à cette occasion... Alors, c'est vrai qu'on a énormément mangé, on a fait... Moi, j'avais entendu dire une fois, bon, les Juifs se font des blagues entre eux, j'avais entendu une fois quelqu'un préciser que grossir n'est pas une mitzvah, contrairement à ce qu'on semble croire, mais manger, oui, ça fait partie de toute notre fête. Bref, vous avez envie de réfléchir ce soir, alors qu'on est en trop-plein comme ça, sur, prendre un peu de distance, prendre un peu de hauteur, et réfléchir un peu sur ce qu'est sur la nourriture. Et ce sera l'occasion aussi de nous dire un mot sur les animaux, le rapport des hommes avec les animaux. On vous écoute avec énormément d'attention.
Oui, tout à fait, Bernard. Évidemment, ce rapport à la nourriture, c'est quelque chose de fondamental dans la tradition juive. Alors là, on vient de terminer donc cette période extraordinaire de Pessah, dans laquelle, eh bien, on est bien d'accord qu'il y a eu beaucoup de consommation. D'abord, les consommations obligatoires, rappelons-nous, la matzah, le maror, extraordinaire. Et puis, tous les repas qui les entourent. Alors, dans cette paracha, dans Shmini, évidemment, on va aborder la problématique de la kashrout. La kashrout, c'est savoir quels sont les animaux aptes, quels sont ceux que l'on peut consommer, ceux que l'on ne peut pas consommer. C'est un point. Mais au-delà de ça, et c'est peut-être sur ce point que je voudrais m'arrêter, il y a aussi le rapport à la nourriture de manière générale. Tout d'abord, rappelons que lorsque la Torah nous demande de faire attention à ne pas consommer certains aliments, c'est parce qu'elle nous rappelle à travers cela que, eh bien, ce que nous allons ingérer va faire partie de nous-mêmes et que donc on doit faire attention à tout ce qui va s'inscrire à l'intérieur de notre réalité physique, physiologique. Ça, c'est déjà un premier point, évidemment, qu'il faut avoir clairement en tête. Et puis, au-delà de ça, eh bien, il y a aussi ce que va vouloir dire la nourriture dans notre vie, dans notre existence. Et à ce sujet-là, eh bien, allons explorer un petit peu ce que nos maîtres nous disent. Alors, avant d'aller voir les textes du Talmud, on se rappelle que lorsque Dieu met Adam et Ève dans ce fameux jardin d'Éden, eh bien, le premier commandement va toucher à la consommation. En effet, il va leur dire, et c'est là où souvent il y a une erreur, eh bien, les gens pensent que Dieu va d'abord leur dire de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, si vous regardez le texte, eh bien, Dieu va d'abord leur demander de consommer. Oui, il va dire « Mikoletz agan achol tochal » de la totalité des arbres du jardin, « Mangez, vous mangerez ». Donc, au fond, il y a d'abord une obligation de consommer, une obligation de profiter du monde dans lequel nous nous trouvons. Il y a un texte dans le Talmud de Jérusalem qui nous dit que Dieu un jour nous demandera des compte si nous avions un jour rencontré un fruit que nous ne connaissions pas et que nous avons refusé d'y goûter. Évidemment, y goûter avec la bénédiction, c'est-à-dire avec cet acte de reconnaissance par rapport à celui qui nous permet de vivre une expérience gustative nouvelle. Mais au-delà de ça, eh bien, il va y avoir donc ce paradoxe. D'un côté, Dieu nous dit de profiter du monde dans lequel nous nous trouvons. Évidemment, on doit en profiter à travers les règles qu'il a imposées. Et nous nous y soumettons avec joie, tout d'abord au niveau de la cacheroute, au niveau de ces mélanges interdits, au niveau de ces nourritures que nous ne pouvons pas consommer parce que tout simplement, eh bien, spirituellement parlant, elles ne sont pas les bons nutriments dont nous devons nous nourrir, parce que rappelons-nous que dans une nourriture, il y a des nutriments, pardonnez-moi, matériels, mais aussi spirituels. Mais au-delà de ça, eh bien, on va voir quand même des textes qui nous interpellent sur cette notion de la consommation. Tout d'abord, il y a un texte dans le traité de Kittin qui nous dit que, eh bien, il faut savoir prendre de la distance avec un repas dont on tire plaisir. Alors, bien sûr, les personnes vont se dire, quoi, donc en deux mots, on n'a pas le droit, pardonnez-moi cette expression, expression un peu légère, de kiffer la nourriture. Et oui, nos maîtres nous disent, au moment où tu la consommes, eh bien, tu vas avoir une expérience de plaisir, mais prendre de la distance, c'est-à-dire, fais attention, au fond, à cette idée qui est très simple, c'est que, à force de te tourner vers des plaisirs gustatifs qui sont du domaine de l'immédiateté, eh bien, tu risques de ne pas vouloir découvrir d'autres types de plaisirs qui sont des plaisirs beaucoup plus forts, beaucoup plus prégnants, qui restent, qui sont les plaisirs spirituels. Le danger, au fond, c'est quoi? C'est à un moment de voir dans ce plaisir de la nourriture une forme de finalité. Vous savez, comme ces personnes qui, lorsqu'elles pensent au céder de Pessah, eh bien, ont en tête, suivant leurs origines, soit le gefilte fish ou le knaideler, vous savez, ces boulettes de matzah que mangent des personnes qui sont de tradition ashkénaze, ou alors le msouki. Et c'est ça, au fond, qui va les faire vibrer. Et c'est un peu dommage. On dit que, d'ailleurs, Rav Yisrael Salanter, qui était un des très, très grands maîtres du moussard, du monde de l'éthique, lorsqu'il était venu à Paris, avait dit « Mais mon problème, c'est quoi ? C'est que lorsque les Juifs parisiens de l'époque, il y a plus d'une centaine d'années, on leur parlait de Pessah, eh bien, ils pensaient tout de suite « gefilte fish », c'est-à-dire, avant tout, les plaisirs gustatifs. Ils oubliaient que les choses se situaient ailleurs. » Donc, on a déjà ce premier point. Le traité de Ktuvot nous dit aussi quelque chose. Il nous dit « Avant de prier pour que la sagesse pénètre dans ton cœur, eh bien, prie pour ne pas faire rentrer dans ta bouche de la nourriture exquise. » C'est un petit peu le même état d'esprit, c'est-à-dire, si ça devient une finalité, si c'est quelque chose qui devient extrêmement important, si on va à la synagogue parce qu'on sait qu'il va y avoir un kiddush, alors why not, ça peut être un point d'entrée, mais si ça devient une finalité, c'est très très grave. Oui, en effet, on peut imaginer que ça soit l'attrait d'une bonne table, l'attrait d'un kiddush qui fasse levier pour amener les personnes à aller fréquenter des lieux d'études. Mais si c'est juste cela qui les fait venir et qu'ils ne découvrent pas par la suite que l'essentiel se situe ailleurs, eh bien, au fond, quel dommage. D'ailleurs, on le voit, on voit cette notion aussi, on l'a dit tous les jours dans le schéma, puisque dans les schémas, on parle des récoltes, de toutes les bénédictions agricoles que Dieu va donner à l'être humain. Et on dit « Vasavta de ganra v'tirochra v'itzarecha ». Et on nous dit « Eh bien, peuple d'Israël, lorsque tu auras la bénédiction, tu seras capable d'avoir rassemblé tes récoltes, tirochra. » Et tirochra, eh bien, c'est tout simplement le fruit de ta vigne. Et ce qui est très intéressant, c'est que les maîtres du Talmud font remarquer que le mot « tirosh », qui veut dire donc « tout ce qui va se trouver dans ton pressoir à vin », eh bien, Tirochra, on peut le lire de deux manières, tirache ou tiroche. Rache veut dire pauvre et roche veut dire à la tête. Et les maîtres du Talmud jouent avec cette double possibilité et nous disent, eh bien, Zaha, si la personne en a le mérite, eh bien, elle sera à la tête. L'Ozacha, si elle n'en a pas le mérite, eh bien, Rach, elle devient comme un pauvre, c'est-à-dire quelqu'un qui dépend sans arrêt de quelque chose. Et Rachi, sur place, nous dit, mais ça veut dire quoi, Zacha ? Et il nous dit, l'Ishtot le Fimida, de boire avec tempérance, de boire à la juste mesure. Si nous savons, en effet, tirer profit de ces nourritures matérielles à la juste mesure, eh bien, elle nous amène à devenir roche à la tête. Ça veut dire quoi, devenir à la tête ? C'est-à-dire, elle nous amène, au fond, à savoir en faire le support d'une relation avec le Créateur de l'univers et avec ces personnes qui nous ont donné la possibilité d'en tirer une jouissance, notre conjoint, ces personnes qui l'ont préparé. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on sait, en effet, manger et boire avec intelligence, alors on voit dans cette nourriture le support qui nous permet de créer de la reconnaissance vis-à-vis de ceux qui nous l'ont préparé et de manière ultime vis-à-vis du Créateur de l'univers. Mais l'ozacha, si on n'en a pas le mérite, c'est-à-dire si on fait de cette nourriture une finalité, alors rache, on devient à l'image d'un pauvre, c'est-à-dire que, eh bien, on dépend sans arrêt de quelque chose d'extérieur à nous. On a besoin de cette nourriture pour se sentir bien. On a besoin de ce bon vin pour que ça se passe bien. Et si ce n'est pas là, eh bien, malheureusement, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. On se retrouve à cela relativement rapidement si on n'y est pas vigilant. D'ailleurs, vous savez que la relation à la cacheroute, c'est-à-dire de manger cette nourriture qui est préparée suivant les règles de la Torah, n'est pas suffisante. Car en effet, il existe un concept que Nachmanide développe dans le texte de Kedoshim qui est tout simplement de Kadesh et Atzmocha b'mutarlach, de savoir se sanctifier dans ce qui nous est permis. Et pardonnez-moi cette expression un peu bas de gamme, mais il y a certaines personnes qui mangent kasher, et je suis désolé d'utiliser ces mots, certaines personnes malheureusement bouffent kasher, et c'est pas du tout la même chose. Manger, c'est un acte d'élévation. Rappelons-nous que Shulchan domé la misber, disent nos maîtres, que l'autel, eh bien, qui était au temple de Jérusalem et qui malheureusement n'est plus là, est remplacé par
shulchan, par la table, car en effet, on élève la matière, on est capable d'en faire le support de quelque chose parce qu'on se rappelle qu'elle nous permet de pouvoir créer l'essentiel, elle nous permet de développer ce qui est fondamental, c'est-à-dire notre dimension spirituelle qui se situe et à la fois dans l'étude, dans la prière, mais aussi dans la manière dont nous allons agir les uns vis-à-vis des autres. Le Chazon Ish, très grand maître que nous avons connu, malheureusement moi je n'ai pas connu parce qu'il est parti au milieu du XXe siècle, eh bien le Chazon Ish disait qu'au fond, si on réfléchissait, la nourriture c'est quelque chose, une fois qu'on l'a avalé, eh bien, on n'a plus faim. Alors, évidemment, ça ne doit pas mettre de côté du tout l'idée de ne pas chercher à faire en telle sorte que les goûts soient bons, mais tout simplement les remettre à leur place. Et d'ailleurs, le Chazon Ish lui-même dit qu'il faut faire très attention à ce qu'on appellerait cette nourriture plaisir, cette nourriture dans laquelle la dimension essentielle, ça va être le plaisir que l'on va en prendre. C'est tout simplement quelque chose qui risquerait, comme on vient de le voir, de nous amener à passer à côté de l'essentiel parce qu'on serait dans une forme d'hyperfocalisation sur cela. Évidemment, on sait très bien que lorsque les enfants sont petits, eh bien, la nourriture que leur maman leur prépare, c'est une manière pour elle d'exprimer son amour et c'est extraordinaire parce qu'elle satisfait d'abord le besoin primaire de l'enfant de ne plus avoir faim et puis par la suite, eh bien, elle lui donne des choses qui lui font plaisir. Mais ça, c'est quand il est enfant. Il faut essayer à un moment de faire bouger les choses, de les faire évoluer. Shabbat, évidemment, est un moment particulier dans lequel on va tirer plaisir de cette nourriture, mais parce que Shabbat, c'est une spiritualité particulière. On a, comme le dit le Talmud dans le traité de Betsa, une neshama yotera, une âme supplémentaire qui peut nous amener à voir dans cette expérience du plaisir gustatif quelque chose qui est un point de départ, un point d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus élevé. Vous me direz que, eh bien, c'est pas si simple d'y accéder, c'est fort possible, mais à nous, déjà, de commencer à être vigilants. Tout d'abord, à travers ne serait-ce que la cache-route, c'est-à-dire montrer que certaines choses peuvent être extrêmement attirantes, ce n'est pas pour autant qu'on ira vers elles. D'ailleurs, les maîtres du Talmud ne s'y trompent pas en nous disant « Aliomar Adam Yefchi » que l'individu ne dise jamais sur la nourriture non cachère ou sur des choses qui sont interdites « Yefchi » que ça le dégoûte. Il doit être capable de dire « Efchi, Vefchi » au fond, je le voudrais bien, ça a l'air d'être bon. « Ma essai, que puis-je faire ?» Le créateur de l'univers m'a dit que ça, c'était pas pour moi. Déjà commencer à faire preuve de retenue sur cela. Et puis, dans un second temps, savoir en effet remettre les plaisirs de la table à leur bonne place pour faire en telle sorte que la partie essentielle qui crée des plaisirs qui, eux, ne s'arrêtent pas et qui sont des plaisirs spirituels puisse être vraiment présent dans notre existence. Et évidemment, que ce Shabbat soit un Shabbat dans lequel tous ces plaisirs de la table puissent créer une atmosphère de sainteté et que nous puissions progresser dans ces domaines. Shabbat Shalom.
Ravi Eli Lemel, je vous remercie. Shabbat Shalom. Et nous sommes en ligne avec Rav Mordechai Biton. Alors pour vous, Rav Mordechai Biton, toujours dans Chemini, donc la nourriture, les animaux, vous voulez nous dire que, puisque bon, en fait, c'est la paracha, on vient de le comprendre, de la cache-route, entre autres. Vous voulez nous préciser ce soir que la cacheroute, manger cachère, c'est une loi qui, bien sûr, est un commandement spirituel, qu'on peut d'ailleurs pas forcément tout saisir, mais c'est aussi un commandement qui a un trait qui influe sur notre vie sociale, qui a un caractère social.
Effectivement, Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, mon cher Bernard. Alors, oui, cette paracha de Shmini, c'est une paracha très particulière. D'abord parce qu'elle raconte l'inauguration du Mishkan, et au moment de l'inauguration du Mishkan dans le désert, se produit un événement terrible, la mort des deux fils de Aaron, pour toutes sortes de raisons que les Mefarshim ont du mal à expliquer, mais je voudrais, moi, me focaliser, dans un premier temps, on reviendra dans un second temps sur la mort des deux fils de Aaron et à la lumière de l'actualité aussi, mais je voudrais me focaliser dans un premier temps sur les lois alimentaires qui sont en fait la deuxième partie de la paracha. Dans la deuxième partie de la paracha, on vient et on nous dit qu'il y a un certain nombre d'animaux qui sont interdits à la consommation et d'autres qui sont permis. Le point commun des animaux qui sont permis à la consommation sont que ce ne sont pas des animaux chasseurs ou rapaces. La vache, le taureau broute, le mouton broute, la chèvre broute, ce sont des animaux qui sont des ruminants, ce sont des animaux qui ne sont pas agressifs, et on va voir que ça a une importance. La même chose pour les oiseaux, les oiseaux qui sont permis ne sont pas des oiseaux rapaces. Ils ont un certain nombre de caractéristiques qui les rendent plutôt inoffensifs. Et toute cette paracha va se conclure, notamment par deux versets, qui vont nous expliquer ce que la consommation des animaux interdits peut créer chez nous. Dans le chapitre 11 et au verset 43, donc on conclut, la Torah dit « Al-te-shaketsu et nafshotechem » « Ne rendez pas votre nefesh », c'est-à-dire votre psychisme en fait. C'est en fait votre intériorité, « sheket », c'est-à-dire « rampant », comme un ver de terre. Ne faites pas de votre psychisme un petit ver de terre, et un rampant immonde. « B'chol ha-sheret ha-sheret velot et tamehu ba'em » Et ne vous rendez pas impur. Lorsqu'on parle d'impureté, on parle toujours ici de quelque chose qui est spirituel. Ne vous rendez pas impur sur le plan spirituel et ne vous rendez pas non plus animal sur le plan physique. Et le passage conclut, venit metembam. Vous allez vous boucher. Vous allez vous boucher en consommant ces animaux. Alors, qu'est-ce qu'on va boucher? Bah, tout simplement, on va boucher des conduits spirituels. Car en fait, le corps est le support de l'âme et ce qu'on mange est le support du corps. Et donc, ce que l'on va manger va en quelque sorte coloniser, si je puis dire, notre psychisme, le structurer. Nous sommes structurés par ce que nous mangeons, C'est ce que la Torah est en train de nous dire ici. Al teshaketsu et nafshotechem. Ne rendez pas votre nefesh, votre psychisme, ver de terre, rampant, animal interdit, animal rapace, animal sauvage. Ne soyez pas comme ces animaux. Pourquoi ? Parce que l'on est ce que l'on mange. On prend les midot, les traits de caractère de ce que l'on mange. On le voit notamment, les Chachamim, les sages nous le rappellent, dans la prière Al-Anissim que nous récitons à Hanouka, où là il est écrit que les Théorim, les purs, ont vaincu les Tmeim, les impurs. Comme s'il y avait en quelque sorte un miracle dans le fait que des gens purs battent des gens impurs. Des gens impurs devraient gagner, en quelque sorte, matériellement, du point de vue matériel, les gens impurs devraient l'emporter sur les gens purs. Pourquoi ? Parce que les gens impurs, ils mangent de l'aileron de requin. Les gens impurs, ils mangent du crabe. Les gens impurs, ils mangent du homard. Les gens impurs, ils mangent des animaux agressifs, des animaux qui tuent. Et donc, ils développent une certaine agressivité naturelle. Et donc, cette agressivité naturelle alliée à une ardeur physique bah, va leur donner la supériorité sur des gens qui mangent du mouton ou de la vache ou du pigeon ou du poulet. En quelque sorte, il y a une nature ici. La nature des gens qui mangent des animaux agressifs, c'est de devenir agressifs. Et s'ils sont naturellement agressifs, psychologiquement agressifs, idéologiquement agressifs, alors donc ils vont gagner. Et donc il y a un miracle, effectivement, qui se produit. Lorsque des gens qui se soucient de leur midot, de leur trait de caractère, et donc qui se soucient de ne pas manger n'importe quoi et n'importe comment, parce qu'ils comprennent que ce qu'ils mangent structure leur psychisme, et donc structure leur âme, structure leur intériorité, et donc vont aussi avoir un impact sur leur corps, ben effectivement, ces gens-là ne sont pas forcément en mesure de l'emporter dans des batailles militaires. Alors, c'est suffisamment ce que la Torah est en train de nous, nous rappeler ici. Mais au travers des lois alimentaires que la Torah va développer à d'autres endroits et que nos sages vont développer, ce qui va nous être rappelé ici, c'est effectivement cette notion de différenciation. D'accord ? Car le pasouk suivant dit « Ki ani Hashem Elohim veit kadashtem veitem kedoshim » Moi, je suis Hashem, votre Dieu, et je vous ai fait monter d'Égypte. Vous ne devez pas vous rendre impur, parce que vous êtes mon peuple, parce que je vous ai choisi, parce que je vous ai fait sortir d'Égypte, pour que vous preniez, entre autres, ces lois qui concernent donc l'alimentation. Et à cet égard, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée pendant la Shoah. Dans quelques jours, on va vivre ici en Israël. Yom HaShoah VaGvura, le jour de la Shoah et de l'héroïsme. En Israël, on parle de plus en plus de l'héroïsme spirituel, des gens qui ont continué à observer les lois de la Torah, même dans les circonstances les plus terribles, qui sont restés fidèles à leur héritage. Je vais raconter cette histoire, à cet égard, une histoire qui s'est produite dans le ghetto de Lodz. Un jeune homme et une jeune fille trouvent un poulet, une denrée rare au moment de la Shoah, mais ils ont, au moment où ils font la shrita du poulet, font donc l'abattage rituel du poulet, eh bien, ils ont un doute sur la cachotte du poulet. Alors, pendant la nuit, ils vont aller voir le Rav, et ils doivent pour ça passer par des égouts, ils doivent passer par des par toutes sortes d'endroits dangereux, sales, etc., jusqu'à ce qu'ils arrivent au Rav. Et lorsqu'ils arrivent chez le Rav, ils montrent le bébé pour expliquer quel est leur doute, et là le Rav regarde à peine le poulet, il dit c'est cachère. Et là ils reprennent le chemin du retour, et lorsqu'ils arrivent donc dans leur appartement où ils avaient la possibilité de faire cuire ce poulet, le frère demande à la sœur, c'est un frère et une sœur, demande où est le poulet. Alors la sœur dit, mais tu vois pas que le Rav il a eu pitié de nous, il a dit que c'était cachère, mais il a pas vraiment regardé, je l'ai jeté. Je voudrais rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que contrairement à ce que l'historiographie officielle de la Shoah nous dit, où on a tendance à rayer complètement de la carte cette grandeur spirituelle, il faut savoir que des millions de juifs ont été fidèles à toutes les prescriptions de la Torah, que ce soit la tzniout, la pudeur, que ce soit les règles alimentaires. Je raconte l'histoire notamment du père du fondateur d'Arachim. Rav Zamir Cohen l'a raconté dans une vidéo, lui-même le fondateur Yossi Vallis l'a raconté, il racontait qu'à une époque il ne mangeait pas kasher. Sa femme l'appelle, lui dit, écoute, va avant de rentrer à la maison, passe à un restaurant là-bas, tu vas nous commander, tu nous prends des repas et tu viens, on mangera ça. Et c'est un restaurant Taref. Et à un moment donné, il s'est dit, mais c'est bizarre, je suis là en train de faire la queue dans un restaurant Taref, alors que mon grand-père a été Mosser Nefesh, il a fait preuve d'abnégation pour la cacheroute. Quelle histoire? L'histoire est la suivante. Il était dans les camps, et dans les dernières heures, alors que les troupes alliées étaient en train de s'approcher du camp, les nazis ont réuni les juifs, et ils l'ont mis, lui, le grand-père, au centre. Il était un petit peu le rabbin du groupe. Et ils lui ont dit, voilà, il y a ici de la viande de non cachère, des repas non cachères, tu vas le manger, sinon on te tue. Et le nazi a sorti son pistolet et l'a braqué sur la tempe du grand-père de Yossi Vallis, fondateur d'Arachim, qui organise aujourd'hui des séminaires pour rapprocher les juifs de la Torah. Et le grand-père lui dit, écoute, j'ai pas mangé taref, j'ai pas mangé de viande taref, j'ai pas mangé de viande non cachère, j'ai pas mangé de plats non cachères, j'ai pas mangé de choses qui n'étaient pas cachères pendant toute la guerre. Tu crois que maintenant, pour faire plaisir à ton pistolet, pour te faire plaisir, tu crois que je vais manger ce que tu me donnes là maintenant? Et le nazi a tiré. Et aussi Vallis, il dit, moi j'étais là en train de faire la queue dans un restaurant taref, alors que dans les dernières heures de la guerre, mon grand-père a été capable de cette grandeur-là pour ne pas enfreindre les lois de la Torah. Il est sorti, et raconte qu'à partir de ce moment-là, il a fait tchouva, et l'aventure, on la connaît, la suite, on la connaît, c'est le fondateur d'Arachim, la première organisation, et certainement la plus percutante au départ, donc, des organisations de Kiev, qui a été relayée par la suite par toutes sortes d'organisations, et le monde de la tchouva s'est développé à partir donc des actions d'Arachim. Donc il y a là ici quelque chose d'extraordinaire. On voit que ces lois, elles ont à la fois une pertinence du point de vue social, c'est vrai, parce qu'elles distinguent le juif, elles lui permettent de conserver sa spécificité. Mais elles ont d'abord et avant tout une résonance du point de vue spirituel, du point de vue psychique, mental, spirituel. Elles structurent le psychisme de chacun d'entre nous. Elles structurent nos midot. Ce que nous mangeons, ce que nous absorbons, et même la manière dont nous l'absorbons, dire des bénédictions avant, dire des bénédictions après, dire des divrei Torah à table, etc., etc. C'est une manière finalement de reconnaître que nous ne sommes pas seulement en train de manger, mais nous sommes aussi en train de construire notre psychisme, notre mental et notre âme. En conclusion, je voudrais rappeler également que ces lois alimentaires sont rappelées également dans Dvarim, dans le Deutéronome, dans le dernier livre donc de la Torah écrite, avec tous les détails afférents. Et rappelez également que ces lois nous expliquent, d'après la Gemara dans Chulin, nous expliquent qu'il y a quatre animaux qui n'ont qu'un seul signe de cacheroute, qui sont le cochon, qui a les sabots fendus mais qui n'est pas un ruminant, le dromadaire ou le chameau, le chafan, c'est difficile à traduire, c'est une espèce de rat des champs, et le lièvre, le lapin. Et là c'est très intéressant parce que ces quatre animaux n'ont qu'un seul signe de cacheroute, et la Gemara dit, mais comment est-ce que Moshe Rabbeinu, le rédacteur de la Torah, a pu s'engager en disant qu'il n'y a que ces quatre animaux qui ont un signe de cacheroute, que ces quatre animaux comestibles qui ont un seul signe de cacheroute? Comment c'est possible? Est-ce que c'était un archer? Est-ce que c'était un chasseur? Comment il pouvait choisir une chose pareille? Et la Gemara conclut, il y a là ici une preuve que la Torah est d'origine divine. Et après, je voudrais l'expliquer 30 secondes. elle consiste dans le fait suivant. C'est qu'en fait, toutes sortes de gens se sont levés tout au long des générations pour aller chercher le cinquième animal. Et en fait, à chaque fois, ils sont revenus en disant, on n'a pas trouvé le cinquième animal. Et donc, c'est la preuve que la Torah est vraie. C'est ça, la preuve. En soi, c'est une preuve, mais c'est une preuve qui va exciter les esprits. Et donc, beaucoup d'esprits se sont excités à aller chercher le cinquième animal, ils l'ont jamais trouvé, et à chaque fois, ils sont revenus, ils ont fourni la preuve que la Torah était vraie. Et que la Torah était donc d'origine divine. Ce que nous dit la Gemara dans Chulin, et ça, c'est très intéressant parce que c'est un fait marquant, c'est une des seules fois à laquelle le Talmud s'engage, le Talmud et les commentateurs de la Torah s'engagent en disant, c'est ici que vous avez une des preuves, donc, de l'origine divine et de la véracité de la Torah. Voilà, à méditer. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Bezrat Hashem. Que nous méritions de retrouver la concorde, la paix et la sérénité dans notre peuple face à tous nos ennemis.
Rav Mordechai Biton, merci. Et Shabbat Shalom. On a appris de belles choses ce soir. Rav Gay ne pourra pas être parmi nous ce soir, donc on aura une pensée particulière pour lui. On lui souhaite un bon Shabbat et on le retrouve vendredi prochain. Cette émission est à présent terminée. Merci de votre attention. C'est à mon tour de vous souhaiter Shabbat Shalom et je vous retrouve à 18h pour un journal enregistré. Shem lo yivne bayit, shom li boi na boi, ma shem lo yishmorich, shav shokat shoy bay. Yom shem lo yivne bayit, shom li boi na boi, ma shem lo yishmorich, shav shokat shoy bay.